VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Libéria, la population dans l'attente de son nouveau président au lendemain du second tour de la présidentielle qui a opposé l'ex-star du football Georges Weah au vice-président Joseph Boakai. Un scrutin dont le bon déroulement général a été salué par les observateurs. Jean-Roger Bion.
Débuté mardi soir, le dépouillement des bulletins de vote devrait se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à la proclamation du nom du vainqueur. Celui-ci va succéder à Hélène Johnson-Sirleaf, qui ne pouvait plus se représenter. Elle cédera le 22 janvier le pouvoir à son successeur, élu pour 6 ans. Dans un pays qui n'a pas connu d'alternance démocratique depuis 1944, cette transition est cruciale. Si le Libéria la réussit, ce sera une victoire pour lui, pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général, a déclaré à l'AFP l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, chef des observateurs du National Democratic Institute, le NDI, dont le siège est aux États-Unis. Le Libéria est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, meurtri par 14 ans d'une guerre civile particulièrement atroce, quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003, puis par l'épidémie d'Ebola, dont il peine à se redresser. Jusqu'à présent, tout s'est passé de manière ordonnée. Il s'agit d'une amélioration par rapport au 10 octobre, date du premier tour, a déclaré après la fermeture des bureaux le président de la Commission électorale nationale, Jérôme Korkoya, avant de demander aux deux candidats de s'abstenir de revendiquer la victoire avant la publication des résultats officiels.
Lourde peine en Côte d'Ivoire pour l'ex-ministre Hubert Houlaye. La cour d'assises d'Abidjan l'a condamné mardi à 20 ans de prison pour complicité d'assassinat de 18 personnes, dont 7 soldats de l'ONU. Les détails avec Bagassi Koura.
C'est une condamnation sans preuve, c'est une condamnation politique, a réagi M. Houlaye, qui a pu regagner son domicile alors que ses avocats promettent un pourvoi en cassation. L'avocate générale Mireille Kouassi avait requis la réclusion à vie pour les deux accusés, Hubert Houlaye, âgé de 64 ans, ministre de la fonction publique de l'ex-président Laurent Gbagbo dans les années 2000, et Maurice Guiré, âgé de 37 ans, dans le cadre de la mort de ces 18 personnes lors d'une attaque dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en juin 2012. Il ne s'agit pas d'un procès politique juste parce qu'il y a un homme politique dans le box. Tenons-nous au fait, laissons la politique aux politiciens, a dit Mme Kouassi, avocate du gouvernement. J'ai honte de la justice ivoirienne. Le dossier est vide, a lancé de son côté Rodrigue Dadié, un des défenseurs du ministre. Pour lui, la cour aurait dû prononcer un arrêt de non-lieu pur et simple. Dans ce dossier, M. Houlaye a fait 2 ans de détention préventive de mai 2015 à juin 2017. Il avait été arrêté 6 mois après son retour d'exil du Ghana et quelques jours seulement après avoir participé à une réunion de frondeurs du FPI.
République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition a annoncé aujourd'hui avoir réuni des signatures d'élus en vue d'attaquer pour inconstitutionnalité la nouvelle loi électorale promulguée mardi par le président Joseph Kabila. Plus de 50 signatures de députés d'opposition et de la majorité sont déjà réunies pour contester devant la Cour constitutionnelle la modification de la loi électorale, a déclaré à l'AFP le député Christophe Lutundula, l'un des responsables du rassemblement, qui est la principale coalition d'opposition dans le pays. Tchad, le président Idriss Déby Itno et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan n'ont eu des consultations hier à N'Djamena. Les deux leaders ont rappelé leur position sur la question de Jérusalem et ils ont aussi signé des accords économiques. Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno et Recep Tayyip Erdogan ont d'abord salué leur parfaite convergence de vues sur les questions internationales, notamment le terrorisme et le conflit israélo-palestinien. Ils ont déclaré que les décisions unilatérales et illégales sur Jérusalem sont inacceptables et nulles. Pour eux, la création de l'État de Palestine indépendant et souverain, avec une intégrité géographique ayant pour capitale Jérusalem-Est, dans les limites des frontières de 1967, constitue la condition principale pour la paix et la stabilité dans la région. En marge de cette visite, les deux dirigeants ont conclu des accords relatifs à l'impôt sur le revenu, la coopération en matière de jeunesse et sport, la coopération technique et de développement, la promotion et la protection des investissements et la coopération dans le partage d'informations et d'archives diplomatiques. Le président turc était accompagné d'une dizaine de ministres et d'hommes d'affaires.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Retour en Afrique de l'Ouest, les boutiques au Mali sont remplies de produits importés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie, une situation que déplorent les entrepreneurs maliens. Le pays peut produire une bonne partie de ce que la population consomme, mais pour cela, il faut une revitalisation du secteur industriel. Un reportage de Bram Postumus à Bamako, rendu par Abdourahman Dia.
Ce bruit était très familier aux populations à travers tout le territoire malien. De Gao à Sikasso, les usines produisaient une variété de produits. Une situation très loin de la réalité aujourd'hui.
On sait que l'industrie ne parle pas, c'est pas courant, c'est pas malien, on a une tradition commerçante. On a eu à un moment donné dans l'histoire du Mali des industries, mais ça remonte à 1969. Donc voilà, depuis on a perdu, et puis à l'époque elles étaient des industries d'État. On a perdu ou on n'a pas compris où ça va venir que l'État a une grande responsabilité dans l'industrialisation de son pays s'il veut régler l'ensemble des problèmes. Et je pense que ça viendra, c'est une question de temps.
Ashkar vient d'une famille qui s'était lancée dans l'industrie dans les années 50. Non seulement il est l'un des rares industriels ayant survécu, mais il continue à se battre pour l'industrialisation du Mali. Le Mali n'a pas perdu toutes ses industries. Certaines usines sont toujours implantées dans et autour de la capitale Bamako et dans des centres urbains comme Kayes, Sikasso et Koulikoro. Mais la liste des produits qui y sont fabriqués n'est pas très longue. Produits laitiers, viande, herbes séchées, épices et une compagnie textile, une entreprise d'emballage, une cimenterie et des entrepôts pour matériel de construction. Les sociétés maliennes, qui ne sont plus sous le contrôle de l'État, ne peuvent pas faire grand-chose face à la concurrence des produits de masse venus essentiellement d'Asie. Le Mali est cependant loin d'être un cas isolé sur le continent. Pour raviver l'industrie malienne, il faudra au préalable résoudre certains problèmes comme le coût de l'électricité, une faible infrastructure, un système fiscal qui décourage les investissements et faire face à la concurrence de pays voisins comme le Sénégal. Fatoumata Aïdara est responsable d'une agence gouvernementale chargée d'aider l'industrie agroalimentaire à améliorer sa compétitivité.
C'est un projet qui est entré en vigueur en mars de cette année, en 2017. Donc c'est un projet qui vise essentiellement à faire la promotion et l'exportation de la mangue, d'une part, et puis faire la promotion pour la transformation du maïs en alimentation bétail et en alimentation volaille.
L'objectif est de créer plus d'emplois pour les Maliens, surtout les jeunes. L'industriel Cyril Ashkar pense que cela est possible, même si le chemin peut être long.
On va dire que, pour vous parler franchement, le virage, le moment pour dire que le Mali va s'industrialiser, ça n'a pas commencé. On attend le début. Le secteur industriel est viable et vivable, nous en sommes la preuve. Il y a un marché. Il y a bien sûr de l'exportation, à condition que vous soyez sur des biens manufacturés à partir de matières premières locales, où là, l'enclavement n'est plus un inconvénient, mais devient un avantage. Il faut y croire.
La solution pourrait aussi venir d'une union des forces avec d'autres pays enclavés comme le Niger et le Burkina Faso. Il y a un marché, des idées et des projets. Ce qui manque, c'est une action du gouvernement pour encourager les investisseurs à venir au Mali en leur assurant une protection contre la concurrence déloyale.
Au Sénégal, la foire internationale de Dakar est en cours depuis le 16 décembre et dure jusqu'à la fin du mois. Plus de 40 pays prennent part. Avec plus de 300 000 visiteurs chaque année, l'événement est considéré comme le plus grand rendez-vous commercial du Sénégal et de la sous-région. Malgré la vocation internationale de la foire, les commerçants locaux semblent tirer leur épingle du jeu, si l'on en croit Boubacar Sadibou Diédou, membre des fêtières de Ziguinchor.
La foire est un événement qui permet à chaque terroir de valoriser un peu les potentialités locales. Donc à Casamance, nous avons une région agricole où se développent aussi des activités de pêche, d'arboriculture et tout. C'est bien de vendre parce que c'est vrai qu'on a mis du temps pour transformer les produits. Il va falloir qu'on trouve une occasion pour vendre comme on l'a fait. Mais là, c'est ponctuel. Pour la continuité, il va falloir trouver des partenaires.
Boubacar Sadibou Diédou, membre des fêtières de Ziguinchor au Sénégal. Merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.